Question clé, que faire en cas de conflit de devoir? 1. Le caractère impératif du devoir. Le devoir est une prescription impérative qui nous est parfois donnée par une institution extérieure, mais qui est toujours respectée en vertu d'un sentiment d'obligation intérieure. Ainsi, les devoirs du médecin sont inscrits dans le code de déontologie médicale, au respect duquel veille le Conseil de l'Ordre. Cependant, au sens strict, le devoir est un acte d'autonomie. Le devoir n'est pas une contrainte, mais une obligation. Obligation juridique, dans le cas du code de déontologie, et morale, lorsque nous nous donnons à nous-mêmes notre loi. Ainsi, le médecin s'oblige-t-il à ne jamais révéler à des tiers ce qu'il a appris dans une consultation? Mais il peut être tiraillé entre plusieurs obligations, par exemple entre respecter le secret médical et préserver la santé d'une personne ayant des relations sexuelles avec une personne séropositive qui refuse d'informer son partenaire des risques de contamination. Voir page 127. Afin d'éviter le conflit entre différentes obligations juridiques, la loi s'efforce de préciser les circonstances dans lesquelles elle s'applique, mais jamais elle ne supprimera les dilemmes moraux. 2. Quel est le fondement du devoir? Comment identifier les règles à suivre? Faut-il nous fier à la nature, à l'ordre du monde? Marc Aurèle, page 130. À la coutume, qui nous montre par exemple que le meurtre ou le mensonge sont désapprouvés dans la plupart des sociétés? À ce que prescrivent les autorités religieuses ou les lois de notre pays? Descartes, page 296. Mais ce serait renoncer au caractère absolu du devoir et abandonner notre capacité à juger et à agir par nous-mêmes. Puisque nous cherchons ce qu'il faut faire indépendamment de notre intérêt personnel et des circonstances, nous devons nous demander si l'action que nous envisageons resterait valable dans n'importe quelle circonstance, pour n'importe quel sujet. Pour reconnaître nos devoirs, Kant, page 132, propose le critère formel de l'universalisation. Par exemple, que se passerait-il si tout le monde mentait? Nous ne pourrions plus nous fier à la parole et les relations entre les hommes perdraient toute valeur et tout sens. Certes, il n'est pas facile de se tenir à la règle qu'on s'est donnée à soi-même. Il est même extrêmement difficile d'agir toujours par devoir. Cela suppose en effet d'ignorer toutes nos préférences personnelles, tous nos penchants spontanés, pour considérer de manière purement rationnelle ce qu'il faut faire et le réaliser effectivement. Kant affirme que le devoir est un impératif catégorique, c'est-à-dire qu'aucune condition ne peut être apportée à son exécution. Kant, page 132-135, Weil, page 136. La considération des conséquences n'entre donc pas en jeu dans l'établissement de ce qu'il est de notre devoir de faire. Seul compte la pureté de l'intention. Lorsque nous agissons par devoir, notre volonté fait taire nos penchants naturels à la paresse, au plaisir. Mais est-il légitime, et même simplement possible, de réprimer ainsi notre sensibilité? Notre nature sensible n'est-elle pas au contraire la source de notre compassion et de notre bienveillance envers autrui? Et comment justifier une telle violence exercée contre soi-même? Nietzsche, page 143. 3. Quelle est l'origine du devoir? Ériger le devoir au rang d'un commandement inconditionné peut conduire à méconnaître l'origine empirique du devoir. La socialisation repose sur l'intériorisation de normes sociales qui tirent leur force du fait qu'elles sont relayées par de multiples instances, telles que la famille, le milieu professionnel ou les lois de l'État. Bergson, page 138. Ainsi, le serment d'Hippocrate est prononcé par les jeunes médecins qui viennent de soutenir la thèse qui fait d'eux des docteurs. Cas pour l'étude, page 126. Nos devoirs sont constitutifs de notre identité sociale et morale. C'est pourquoi il peut être si difficile d'y manquer. Il faut toutefois mettre en question l'estime que nous accordons à ce sentiment de dette morale. Nietzsche, page 143. 4. Peut-on désobéir par devoir? Dans certaines circonstances, ne sommes-nous pas obligés de mentir pour ne pas trahir un autre devoir? C'est le problème que pose Constant à Kant. Si un assassin me demande si je cache l'homme qu'il poursuit, dois-je lui avouer? Le devoir de véracité me commande de dire la vérité, tandis que le devoir de protéger la vie d'autrui me commande de ne pas livrer un homme à son assassin. Les circonstances nous pressent. Nous sommes condamnés à choisir. Que devons-nous donc faire? Constant affirme avoir trouvé une solution qui lui permet de ne pas abandonner le principe selon lequel la vérité est un devoir. Il faudrait ajouter une précision, autrement dit, une condition. La vérité n'est un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Or, l'assassin ne respecte pas le devoir qui nous impose de protéger autrui et nous interdit d'attenter à sa vie. Et nous n'avons pas de devoir envers qui ne respecte pas le devoir. Cette solution revient à affirmer qu'il y a une hiérarchie entre les devoirs. Le devoir de protéger autrui serait plus important que le devoir de dire la vérité. Mais reconnaître une telle hiérarchie impose de renoncer au caractère absolu du devoir. En outre, qui est en position de décider qui a droit à la vérité? Sur quoi repose un tel droit? Comme l'écrit Weil, les droits ne précèdent pas les devoirs, mais au contraire, les droits n'ont d'existence qu'à condition d'affirmer que le devoir existe. Weil, page 136. À retenir. Le devoir est une obligation qui prend la forme d'un commandement impératif. Il faut toujours dire la vérité, ou « tu ne tueras point ». C'est un acte d'autonomie. Envers qui avons-nous des devoirs? Avons-nous des devoirs envers nous-mêmes? Déterminer envers qui nous sommes obligés engage une définition du devoir.